Et là, ben, je vous titille avec ça depuis le début de l'émission. On est rendu là. C'était aujourd'hui la dernière de l'émission Tradosphère, un nouveau magazine avec une mission semblable. J'ai dit Tradosphère, hein? Oh, là, j'étais dans une autre vie, complètement. C'était le nom d'un magazine de musique traditionnelle à CIBL. Je suis vraiment... C'était la dernière de l'émission Accès Libre. Vous voyez tout ça, c'est parce qu'on vit un moment important, historique. Alors, tout ça me fait faire des lapsus. Maintenant, je vais vous présenter le nouvel animateur de l'émission Sans détour. Vous connaissez sa voix parce qu'il était chroniqueur, pas plus tard que la semaine dernière à Accès Libre, François Beauregard. Bonjour François.
Bonjour Christiane, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de commencer la semaine prochaine à animer Sans détour. Sans détour, il faut voir ça des deux côtés de l'expression, parce que d'abord, on va essayer de parler sans détour et d'aborder les sujets sans détour, des choses qui nous touchent tous, qui vivons avec des handicaps de toutes sortes. Moi-même, je fais de la rétinite pigmentaire, alors j'ai des challenges, puis tout le monde, on a les nôtres. Et donc, on va parler sans détour, sans faux fuyant, des choses qui nous préoccupent avec les gens qui sont les acteurs dans ce domaine-là. Et sans détour, parce que c'est une question d'accessibilité aussi, parce qu'on rêve tous d'avoir une société où il n'y a pas de détour, une société où tout est accessible au premier clic, où on peut aller d'un point A à un point B sans, on parlait tout à l'heure du transport adapté, là, sans faire toutes ces... prêter, si je peux dire, à tous ces détours qui sont, enfin, finalement, non seulement coûteux, ennuyeux, mais moralement inutiles aussi. Alors, d'où le titre de l'émission Sans détour, titre dont nous devons la création à Christiane. Alors, je la remercie parce que c'est tout à fait juste comme titre d'émission. Alors, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir se parler. On va parler d'autres choses aussi que des questions immédiates d'accessibilité. On va parler de sport parce que moi, j'aime le sport puis j'en pratique. Alors, c'est sûr que ça me fait plaisir d'en parler. On va parler de santé mentale aussi parce qu'il y a des matins où on se lève puis on voit la neige qui tombe ou on entend le vent dans les arbres puis on a un peu le cafard, surtout à des fins de saison, mais partout tout autour de l'année, faut être capable de vivre notre vie d'une journée à l'autre. Alors, la santé mentale, c'est important. Et on va parler aussi de gens qui nous inspirent, de gens qui ont été capables d'aller au-delà des limites immédiates que la vie leur imposait. Et donc, en votre compagnie, nous allons passer une heure tous les lundis. Voilà.
Parle-nous un peu de toi, François, de ton parcours. Parce que les gens, déjà, ont pu t'entendre ici, aussi oui. À Ami-Télé.
Oui, tout à fait. La radio ou la télé, c'est un peu comme une deuxième partie de ma vie. J'étais plus jeune, journaliste. J'ai été journaliste financier pendant 4 ans au journal Finance au début des années 80. Je suis devenu par la suite courtier en valeur mobilière, planificateur financier. J'ai exercé cette profession pendant plus de 30 ans. J'ai rencontré des milliers de personnes en les aidant du mieux que je pouvais à les comprendre, mais aussi à faire ce qu'ils souhaitaient faire dans la vie. Et comme j'avais déjà été journaliste, bien, je suis revenu un peu à la télé en parlant de finance ou de planification personnelle, financière, au début des années 2000. Puis après ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Ami-Télé et Canal M par la suite. Parce que pour parler entre autres d'histoire, et ça, c'est un peu un retour aux sources parce qu'à l'origine, mon cours à l'université, je l'ai fait en histoire et en sciences politiques. Et c'est des sujets qui encore m'habitent et que j'aime bien partager avec les auditeurs au courant des petites chroniques histoires qu'on a faites. Je joue au hockey sonore, je suis un sportif. J'ai décidé un jour, après de quelques années de cafard, qu'il ne fallait pas que les limites que je m'imposais soient des limites, il fallait plutôt que je passe au travers. Alors, le sport m'a beaucoup aidé à m'y retrouver, à faire le deuil puis à intégrer l'handicap dans ma vie. Et maintenant, je ne peux pas vraiment concevoir mon existence sans avoir le cœur qui me sort de la poitrine puis à suite à grosses gouttes. Pour moi, ça, c'est les moments préférés de la semaine. Voilà.
Et puis, on le disait tout à l'heure, friand d'histoire, malheureusement, on n'aura plus tes chroniques puisque tu seras l'animateur. On trouvera
si on
une
insiste,
façon.
Si on insiste, on en fera un peu, voilà.
On trouvera une façon. Sache que tu es une recherchiste qui a une maîtrise en histoire.
Voilà.
Et un passé de guide, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, on ne pouvait pas passer à côté. Demain, c'est l'élection américaine.
Tout à fait.
Et il y a quelqu'un dont tu n'avais pas eu le temps de nous parler encore.
Il est tout à fait d'à propos dans le contexte. En fait, c'est la personne qui est au carrefour de Canal M et de l'élection présidentielle de demain. Je parle de Franklin Delano Roosevelt, président américain de 1932 à 1945. En fait, il est décédé au cours des premiers mois de son quatrième mandat. C'est après qu'il eut été élu quatre fois d'affilée qu'en fait la Constitution américaine a été amendée. C'est pour ça que maintenant c'est limite deux mandats. Alors, Roosevelt est un homme remarquable, plus grand que nature. C'est, à mon sens, bien humblement, un des plus grands personnages du 20e siècle. Famille de patriciens, il vient d'une famille vraiment très fortunée, des gens qui ne travaillent pas physiquement, là, qui ont tout cuit dans le bec. Au début de sa carrière, jeune avocat, Harvard, ainsi de suite, les meilleures écoles privées. Il n'a pas d'handicap, ça viendra plus tard dans sa vie. Il va être sous-secrétaire à l'amirauté dans l'administration Woodrow Wilson de 1912 à 1920, et il va être... il est plutôt arrogant, puis un peu... il n'y a pas grand-chose qui est au-dessus de ses forces. Il est très, très confiant dans ses moyens. Mais il passe bien, parce qu'il y a une personnalité charmante, agréable, c'est un excellent orateur. Et on lui promet un certain avenir politique, mais ce n'est pas une personne transcendante. Et puis, là, il est arrivé deux choses dans sa vie. À la fin de 1916-1917, bien qu'il était déjà marié, qu'il avait cinq enfants, il tombe éperdument amoureux d'une jeune femme qui travaille au même service que lui, à l'amirauté. Et là, ça va briser son mariage, mais son ambition politique est telle qui va accepter de laisser cet amour de côté, de vivre d'une façon tout à fait platonique avec son épouse Éléonore pour le reste de ses jours. Et il va complètement transcender cet aspect de sa vie plutôt vers le service d'autrui. À peu près quelques années plus tard, au début des années 20, il contracte la poliomyélite, qui est une maladie infectieuse, qui à ce moment-là est incurable. Il s'en retrouve paralysé des hanches jusqu'aux pieds. Et donc, à l'âge de 39 ans, il va avoir perdu, à toute fin pratique, complètement l'usage de ses membres inférieurs. Et malgré ça, il a une ambition politique dévorante. Il va réussir à se faire élire gouverneur de l'État de New York. Par la suite, il va être candidat à l'élection de 1932 pour le Parti démocrate. Et là, à ce moment-là, en 1932, les États-Unis sont aux prises avec la dépression. Le chômage est épouvantable. Il y a de la misère partout dans le pays. Et il va comprendre les gens ordinaires, bien que lui soit né avec une cuillère d'argent dans la bouche et ait vécu à peu près toute sa vie dans une tour d'ivoire. Est-ce que ce soit les déconvenues amoureuses ou le fait d'avoir été frappé par la maladie et de s'être retrouvé en situation d'handicap? Mais son empathie, sa compassion, sa compréhension de la souffrance des gens va changer cet homme-là. Et il va être capable, par cette manière, d'être près des gens et de leur faire croire et de réussir à les faire croire que oui, il y a une solution puis qu'on peut sortir de la dépression économique des années 30. Et par la suite, c'est lui qui va être en fait le leader des Alliés quand les États-Unis vont s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale. Il va être le leader des forces alliées. Donc, il aura vraiment été un sauveur pour son pays au travers de la pire crise économique et par la suite de la pire guerre. Alors, et tout ça à quelqu'un qui était incapable de marcher, que les médias de façon très prude, évitaient de montrer dans des situations embarrassantes. Mais si on lit sa biographie, on s'aperçoit à quel point, au début de sa carrière politique, c'était vraiment une obsession pour lui. Il dit, il ne faut pas que les gens sachent que je suis handicapé. Ils n'auront plus confiance en moi. Mais il était capable de surmonter cet obstacle.
Est-ce qu'il a réussi à continuer à le dissimuler tout au long de sa carrière?
En fait, non, pas vraiment. Mais les gens, le discours était qu'il avait vaincu la polio. En fait, il était capable de marcher, mais avec des attelles ou des orthèses qui pesaient chacune une quinzaine de livres. Puis c'était en fonte, ainsi de suite, avec des cannes. Mais le truc qu'il avait développé, c'était de s'appuyer sur sur le coude de deux très costauds gardes du corps à gauche et à droite, ou un à droite, puis de l'autre main, il tenait une canne. Il était capable de pivoter ses jambes inertes avec un mouvement un peu de gauche à droite et donner l'impression qu'il marchait. Mais ça demandait un effort considérable. Et pendant tout ce temps-là, il souriait. Puis, rendu au podium, quand c'était le temps de faire son discours, il s'appuyait évidemment très fermement avec la main gauche pour ne pas tomber. Puis avec la main droite, il faisait des saluts.
Ça demandait donc des tribunes, des pupitres qui...
Qui étaient solides, mais ça demandait surtout quelqu'un qui était solide, quelqu'un qui avait une confiance en la vie et qui était... je dirais, en mission, on dirait aujourd'hui, cette expression malheureusement un peu galvaudée, mais il se sentait responsable et il se sentait capable d'aider. Et c'était juste une question pour les gens de voir au-delà de cette limitation physique. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose de beaucoup plus difficile, plus difficile à cacher, justement, avec les médias sociaux, la télévision omniprésente.
Voilà, mais il n'y a rien qu'on ne connaît pas de la vie de nos politiciens aujourd'hui. C'est parfois même un peu gênant. Mais l'idée est qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de compromission où les médias savaient, parce que dans ce moment-là, c'était la radio. Or, Roosevelt parlait très bien, était très éloquent. Alors, il s'adressait aux Américains tous les samedis soirs à la radio, et ça, c'est Fireside Chat. Et c'était une façon privilégiée pour lui de toucher directement son électorat. Mais surtout qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de télé. Alors, comment est-ce qu'on voyait le président? C'était des newsreels, ce qu'on appelait. C'était des films d'actualité. Alors, il y avait des gens qui filmaient littéralement les événements importants de la semaine. Et par la suite, c'était montré au cinéma. Hein? On voyait le film de l'actualité de la semaine avant le programme principal, avant le film qu'on allait voir. Alors, évidemment, il y avait tout un travail de montage. Il y a encore des très rares archives où on voit Roosevelt qui sort d'une auto, mais vraiment péniblement avec l'aide d'autres personnes pour l'aider à se mettre debout. Et là, on voit un garde de sécurité qui se tourne vers la caméra avec un petit geste en voulant dire « coupez ». Et là, évidemment, l'image coupe. Alors, les médias, à ce moment-là, avaient compris qu'il fallait que les États-Unis aient confiance dans leur leader s'ils voulaient se sortir de la crise. Et ce n'était pas le moment d'en remettre et de faire douter les gens.
Voilà. Ce qui me fait penser à une situation complètement différente aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un dont je pourrais te parler en chronique à Sans détour, qui est la sénatrice Tammy Duckworth, qui est une vétérante de la guerre en Irak, je pense, et qui est mère, sénatrice et en situation de handicap, et qui a même été pressentie pour être colistière de Joe Biden pour l'élection de 2020. Alors, c'est peut-être un portrait qu'on pourrait faire, que je pourrais faire bientôt.
Tout à fait.
À cette nouvelle émission que tu vas animer. Alors, on rappelle, à compter de lundi prochain, même heure, même poste, comme on dit.
À midi.
Ce sera l'émission Sans détour. Je serai de retour à l'arrière, dans les coulisses, à vous...
Et partout à la
trouver
fois,
des invités,
pas.
Mais au micro, à la chronique de temps en temps. Alors, François Beauregard qui sera avec vous dès la semaine prochaine. Mais merci de m'avoir accompagné dans ces dernières semaines. Merci de m'avoir écouté. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté à la console, qui est toujours un grand magicien et qui a un support inestimable quand on est de ce côté-ci de la vitre. Et à lundi prochain, tout le monde, pour l'émission Sans détour.